C'est parce que je veux restaurer avec vous.
Il avait mis la voiture dans le fossé.
Assurer le maintien des institutions de la Ve République.
Vive la République! Vive la France!
Présidentielle 2017, la France décide.
Cet entre-deux-tours, on va parler politique, bien entendu, c'est la semaine ou jamais. Hein. À l'élection, c'est dimanche, on a Nathanaël Bloch avec nous. Nathanaël Bloch, vous avez fait plusieurs campagnes, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait plusieurs campagnes au cœur de certaines campagnes politiques, avec des hommes politiques.
Exactement, Christophe.
Bonjour.
Bonjour.
C'est un petit peu compliqué à vous présenter, mais c'est comme ça. Cette campagne, cette élection de cette année, donc de 2017, vous l'avez vécu comment, vous ? Parce que au sein de la France, on a vu qu'il y a eu, on a redistribué les cartes. D'un point de vue stratégiquement politique, vous le vivez comment ?
Christophe, c'est une des campagnes les plus, honnêtement, les plus intéressantes qu'on ait vues ces dernières années, et notamment une des plus incertaines, dont l'issue du second tour est la plus incertaine possible. Ce qui est intéressant là, à l'issue du premier tour, c'est d'abord de faire les constats que beaucoup de monde partage, mais qui méritent quand même d'être un peu plus clarifiés. D'abord, c'est la première fois dans l'histoire récente de la politique française et de la Ve République qu'on ne retrouve à la fois ni gauche ni droite au second tour. On a déjà eu des...
Traditionnel, hein. Ni gauche traditionnelle, ni droite traditionnelle.
Ni Républicains ou UMP en face, ni Parti Socialiste ou SFIO, si on veut remonter un peu plus loin. On a déjà eu des cas extrême droite, droite, on a eu d'autres cas. Là, c'est la première fois qu'on ne retrouve pas les deux partis majoritaires en France. On avait quand même une bipolarisation de la vie politique ces dernières années. Ça a complètement là, éclaté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement on ne les retrouve pas au deuxième tour, mais surtout là, elles ont totalement...
presque disparu.
Elles ont disparu.
Du débat.
C'est clairement l'échec de la recomposition de la droite et du centre avec la création de l'UMP en 2002. Je veux dire, ça signe la fin de cet objet politique un petit peu hybride dont beaucoup de monde se posait des questions au début.
L'après-RPR.
L'après-RPR. Comment vont être distribuées les cartes à droite? On n'en sait pour l'instant encore pas grand-chose. Et puis à gauche, on a eu une déclaration de Stéphane Le Foll, un vrai Hollandais de la première heure, qui a dit clairement le Parti Socialiste ne pourra pas réapparaître comme il était avant cette élection.
Donc, alors là, j'ai une petite question. Oui. Si on se concentre sur le Parti Socialiste, si on regarde bien la scission qu'il y a eu entre Benoît Hamon et Manuel Valls, est-ce qu'aujourd'hui ça ne veut pas dire que le Parti Socialiste va forcément imploser ou exploser, ça dépend ce qu'on veut dire. Mais est-ce qu'en choisissant Benoît Hamon, est-ce que le Parti Socialiste n'a pas fait un choix stratégique de dire « Ok, cette élection, elle est perdue, mais dans l'opinion publique, on va se replacer à gauche. » Est-ce que ce n'est pas un peu ça quand même ?
En fait, ce que ça veut dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de droite et gauche, mais ça veut dire que les droites et gauches ne vont plus être comme avant. C'est-à-dire qu'à gauche, maintenant, l'épicentre de la gauche, il est plus à gauche. Et il est composé par des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'est ça va être ça demain, la gauche. Et à droite, c'est pareil. La droite de demain, ça ne va plus être la droite Juppé, Chirac, etc. Ça va être la droite qu'on a connue avec Marine Le Pen et avec quelques personnalités d'une droite un peu plus dure.
Donc,
au sein,
dont Nicolas Dupont-Aignan, par exemple.
Dont Nicolas Dupont-Aignan, mais dont même quelques ténors de la droite qui ont flirté ou qui commencent à flirter avec Marine Le Pen. Donc on va avoir une polarisation encore plus forte, gauche et droite, une gauche plus à gauche et une droite plus à droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va avoir au milieu ? Parce que cette campagne, le deuxième enseignement de cette campagne, c'est aussi par rapport à la famille centriste. De la même manière que c'est l'échec de l'UMP de 2002, c'est clairement aussi l'échec de l'UDI de 2012. C'est-à-dire que l'UDI, ce qu'a essayé de faire l'UDI ces dernières années et qu'ils n'ont pas réussi à faire, que n'a pas réussi à faire le parti de Jean-Christophe Lagarde, Emmanuel Macron l'a fait actuellement. Et donc, on a une recomposition aussi du centre qui ne va plus être un centre inféodé à un parti de droite comme l'était en fait l'UDI avec des accords électoraux. Mais on va avoir un centre complètement indépendant avec une interrogation. Est-ce que ce centre indépendant, il va aller de Manuel Valls sur la gauche qui n'est plus la gauche, jusqu'à Alain Juppé sur la droite qui n'est plus la droite. Donc il y a une vraie recomposition. On ne perd pas la bipolarité de la vie politique, sauf qu'on rajoute un troisième élément. On est dans une espèce de tripolarité où le centre va vraiment être, se définir lui-même comme un acteur majeur pour la vie politique française de demain. Et ce qu'on peut aussi noter au centre qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un petit peu la revanche de François Bayrou. François Bayrou, il avait fait un mauvais score en 2002. Il avait frôlé les 20% en 2007. Il replonge de nouveau en 2012. Il se présente pas, personne ne l'attendait, il s'est pas présenté, mais il a soutenu très tôt Emmanuel Macron. Et puis là, on voit bien qu'Emmanuel Macron, il a besoin quand même, pour asseoir son autorité, de quelques figures qui vont pas lui voler la vedette, mais qui sont légitimes pour la famille centriste. Et François Bayrou, lui, il a une vraie légitimité parce qu'il a toujours été fédéraliste, il a toujours été européen, il a toujours été pour une société ouverte. Et c'est aussi un enseignement de ce scrutin-là, c'est qu'on n'oppose plus maintenant gauche et droite, mais on oppose société ouverte contre société fermée, on oppose libéralisme versus protectionnisme, on oppose immigration sous certaines conditions à plus d'immigration du tout, maintien dans la zone euro à retour au franc. On a une bipolarité qui s'est déplacée sur d'autres sujets.
Si on prend le cas d'Emmanuel Macron, il a vraiment une complexité dans ses mains parce qu'il doit jongler justement avec des personnalités comme Juppé, comme Manuel Valls, vous le dites vous-même. Ce sera compliqué pour lui, même avant de gouverner, de presque rassembler dans cette espèce de melting pot politique.
Alors, il a un avantage, Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait preuve d'une grande célérité avec beaucoup de réussite quand même ces derniers mois, puisque Emmanuel Macron, il a quand même créé le mouvement En Marche il y a un an, tout pile, en avril 2016. Il démissionne en août 2016. Il fait sa déclaration de candidature à la présidentielle en novembre. Donc, c'est quand même un laps de temps très, très court. Et donc, il a quand même fait preuve. C'est une machine politique, clairement, là, qui s'est mise en route. Et puis, là, on le voit, en fait, la difficulté pour lui, c'est de se dire comment est-ce que, pour une campagne politique, ma carte était de dire je vais gouverner autrement avec des personnes de la société civile, etc. Mais pour les législatives, quand il faudra quand même avoir une majorité à l'Assemblée, parce que c'est le défi d'Emmanuel Macron, comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que j'intègre des personnalités qui vont rapporter des voix dans des circonscriptions ? Comment est-ce que je m'assure, moi, de pouvoir gouverner avec des personnes qui ont de l'expérience ? Et il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit, je ne m'empêcherai pas d'avoir comme ministre des personnes qui ont déjà exercé des responsabilités.
D'ailleurs, le FN en fait son chou gras là-dessus.
toute la stratégie du FN, c'est de dire Emmanuel Macron, c'est le fils de François Hollande. Ce qui, entre nous, n'est pas très malin comme argument de la part de Marine Le Pen, qui elle-même est la fille d'eux.
Ouais. Mais ça tape plus quand même.
voilà. Aujourd'hui. Mais tout l'enjeu d'Emmanuel Macron, il est là, il est de dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, de manière un petit peu malicieuse, qu'il retarde l'annonce des candidatures pour les législatives. C'est que plus il va dévoiler le nom des candidats, plus soit on va le taper d'un côté en lui disant ces candidats n'auront jamais aucune chance de gagner des circonscriptions. Et de l'autre côté, s'il envoie des personnalités connues, on lui dira Emmanuel Macron. Vous nous recyclez du Ségolène Royal, vous nous recyclez du Robert Hue, vous nous recyclez du Renaud Dutreil. Vous êtes en fait un vieux politique. Je voulais aussi dire quelque chose sur les extrêmes. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant avec Marine Le Pen et l'extrême droite, c'est que finalement, toute la campagne de dédiabolisation a pas mal fonctionné.
Voilà, j'allais dire, on peut dire que ça a fonctionné quand même.
On peut dire que ça a fonctionné, ça a d'autant plus fonctionné qu'il y a eu énormément d'affaires au Front National qui ont été révélées ces derniers mois. Alors, on connaît tous les affaires des emplois au Parlement européen, présumé fictif, mais il ne faut pas non plus oublier que 28% des élus FN, régionaux, municipaux, etc., ont démissionné dans la dernière mandature, ce qui est énorme. Je veux dire, c'est plus d'un élu FN sur quatre qui a démissionné. Donc ça prouve aussi que le FN, quand il arrive au pouvoir, comme les autres partis, finalement, il ne s'en sort pas si bien. Et donc malgré ça, malgré les affaires révélées au Parlement européen, la dédiabolisation du Front National a réussi et Marine Le Pen a vraiment réussi à installer son parti dans l'opinion publique. D'ailleurs, c'est plus le Front National, hein, c'est plus les Le Pen, c'est une nouvelle personnalité, donc c'est extrêmement intéressant.
Elle n'a d'ailleurs pas été au rassemblement de Jeanne d'Arc.
Non, elle n'a pas été au rassemblement de Jeanne d'Arc et puis, d'une certaine manière, elle se démarque aussi de manière assez claire par rapport aux agissements de son père. Ses propos sont beaucoup plus mesurés. C'est devenu aussi, d'une certaine façon, une vraie politique, en fait.
Juste sur le cas de Marine Le Pen, elle a un programme qui est profondément anti-européen. Si elle est élue lundi, anti-Europe en tout cas, si elle est élue lundi, tout ce qu'elle promet dans ce programme ne pourra pas le mettre en pratique le mardi. Il y a des termes de sortir de l'euro, on ne sort pas de l'euro comme ça. Il y a plein de choses qu'elle promet où ça va être compliqué de mettre ça en place le lendemain ou le surlendemain, voire même dans les mois qui suivent. Elle a un programme qui... est-ce qu'elle en parle de comment arriver à mettre en place ce programme ?
Alors, je ne suis pas dans les sphères...
est-ce qu'on en entend parler ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'adage « plus c'est gros, plus ça passe », il s'applique vraiment aux politiques. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen dit, quand elle disait, puisque maintenant elle a un peu changé d'avis avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, mais quand elle disait on va sortir de l'euro, en fait on ne sort pas de l'euro comme ça. Quand bien même elle voudrait sortir de l'euro, on ne sort pas de l'euro comme ça. Ce qui est sûr par contre, et on l'a vu après la victoire d'Emmanuel Macron, c'est que ça donne des indices au marché financier. Le taux de conversion entre l'euro et d'autres monnaies, oui, il va y avoir un impact. Clairement, si c'est Emmanuel Macron, l'impact sera plutôt positif. Si c'est Marine Le Pen, les marchés vont d'une certaine façon s'affoler. Donc ça, clairement, il y aura un impact sur les marchés. Après, Mais comme tout programme politique, en fait, là, pour le coup, autant Marine Le Pen que d'autres hommes politiques, elle n'appliquera pas, elle ne peut pas appliquer directement son programme. Et notamment la sortie de l'euro, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça du jour au lendemain. Et puis, en fait, d'une certaine façon, ce qui peut aussi nous rassurer, mais qui est un piège pour les électeurs potentiels de Marine Le Pen au second tour, c'est que finalement, elle revient aussi d'une certaine façon, la sortie de l'euro n'est plus si importante que ça, c'est plus la priorité. Et puis, on l'a vu aussi avec certaines interventions de cadres FN, ils ne savent pas trop vraiment qu'est-ce qu'ils vont. On fait quoi à la place qu'on sort de l'euro ? On met le franc, et puis les entreprises qui traitent avec l'international, comment est-ce qu'elles se débrouillent ? Elles ont une monnaie pour gérer en interne, puis une monnaie pour gérer à l'international.
Puis comment on gère ça sur l'avenir ? Parce que au moment où il y a la parité, c'est bien. Puis dès que le marché prend en action, ça se complique.
Tout à fait. Non, mais clairement, on le voit bien. Marine Le Pen, maintenant, son enjeu aussi, c'est de ratisser le plus large possible. Et donc, elle doit, d'une certaine façon, polisser un peu son programme sur les propositions les plus radicales. Et la sortie de l'euro en fait partie.
D'accord. Si on parle de En Marche,
dans Marche.
Je sais qu'on saute du coq à l'âne, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe aussi aux politiques. En Marche, il y avait un point avec un défi d'être au deuxième tour, au second tour. Est-ce que le fait que est-ce qu'on a le sentiment peut-être que il y a presque eu une surprise d'être au deuxième tour parce que il y a une sorte d'essoufflement qu'on peut peut-être sentir qui a été ressenti dans les deux trois premiers jours après. Est-ce qu'on peut lire ça ou pas?
Alors on peut parler là, Christophe, d'effet Juppé. Il faut pas être trop haut trop tôt parce que quand on est trop haut trop tôt, après on ne peut que dédringoler. Et c'est un peu aussi ce qui se passe, vous avez raison, avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il avait des sondages qui étaient extrêmement favorables les jours avant l'élection. Et puis finalement, et ce qu'on se disait auparavant, c'est qu'on se retrouve avec deux personnalités pour le second tour qui non seulement ne recueillent pas des suffrages extrêmement importants, on est en dessous de 25%, et puis en plus l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est pas non plus très important. Je ne sais pas s'il y a un essoufflement de la dynamique Emmanuel Macron, mais il y a en tout cas une priorité qui est de faire le score le plus grand et le plus important possible, parce que finalement, c'est moins l'élection présidentielle que beaucoup, quand même, pensent être favorable à Emmanuel Macron qu'après la capacité de ce dernier à rassembler pour les législatives et de pouvoir asseoir une majorité. En Marche, d'ailleurs, un de ses cadres l'a déclaré, En Marche deviendra un parti politique, je crois, le 16 mai, donc une semaine après le second tour des présidentielles. Et c'est ça le vrai enjeu pour Emmanuel Macron, c'est bien sûr de remporter la présidentielle et le second tour des élections, mais c'est surtout de faire le score le plus important possible pour créer une dynamique pour après lancer des... Parce que ça va être des campagnes éclairs pour Emmanuel Macron. Il faut savoir que maintenant, sur le terrain, par exemple, pour les élus républicains, là, ils sont en campagne pour les législatives. Et le temps que les élus républicains fassent la campagne pour les législatives, les élus En Marche ne peuvent pas la faire puisque les candidats n'ont pas encore... Ou en tout cas, les candidats En Marche n'ont pas encore été désignés. Donc, c'est tout ce temps qui est perdu pour Emmanuel Macron et son parti. Donc, il a véritablement comme enjeu de faire un score le plus important possible pour lancer une dynamique pour les législatives du mois de juin.
D'accord. Est-ce qu'il y a déjà... Bon, je sais qu'il n'y a jamais eu un président aussi jeune, en tout cas en France, qu'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a un impact, vous pensez, dans l'opinion publique ? Est-ce que ça fait peur aux gens quand même ou pas ? Ou est-ce que c'est une vraie opportunité ?
En fait, Emmanuel Macron, l'avantage qu'il a, c'est qu'il s'inscrit dans une tendance qui est un peu plus généralisée. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à être potentiellement un président jeune ou un leader politique jeune. Il y a Matteo Renzi, l'Italien, qui d'ailleurs lui a annoncé son soutien.
Qui revient d'ailleurs, qui est revenu en politique.
Voilà, qui est revenu en politique.
Par la grande porte.
Il y a le leader grec, ancien ministre des Finances, si je m'abuse, Varoufakis, pourtant considéré, on en parlera peut-être après, d'extrême gauche, qui lui a aussi apporté son soutien. Il y a eu l'effet Obama, et ça, sa porte-parole, Laurence Haïm, on a bien parlé, elle veut faire de Macron une sorte de nouveau Obama. Donc, je ne sais pas de manière absolue si l'âge, le jeune âge est un atout ou un désavantage, mais en tout cas, ça s'inscrit dans l'air du temps. Et ça ne peut pas lui faire de mal. Après, ce qui est le vrai avantage au-delà de son âge à Emmanuel Macron, c'est sa nouveauté dans la sphère politique. Parce qu'il peut être un président potentiel jeune, mais avoir fait déjà 15 ans de politique. Emmanuel Macron, ce n'est pas le cas. Il a l'expérience du privé, il a l'expérience de la haute fonction publique. Et c'est peut-être ça, plus que l'âge, son avantage. C'est d'avoir un souffle nouveau, un regard un peu nouveau sur les problèmes politiques et de ne pas être un politicard professionnel depuis... des années, comme d'ailleurs le sont l'ensemble des autres candidats, hein, Marine Le Pen, Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron a ça pour lui en tout cas.
Ils ont commencé jeunes d'ailleurs également en politique, mais il y a longtemps.
Et voilà, exactement.
Une autre question par rapport à cette élection. Donc là, dimanche, on va avoir un nouveau président, une nouvelle présidente. Il y a de très fortes chances qu'il y ait une cohabitation directe après les législatives, parce que c'est probable que soit le Front National, soit En Marche ne gagne pas forcément ces législatives. On n'a jamais vu ça, une élection présidentielle avec une cohabitation si rapide derrière.
C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Christophe, parce que le passage du septennat au quinquennat, il avait justement été mis en place
exactement
pour que les législatives coïncident avec les présidentielles et qu'il n'y ait absolument pas de 2 ans de cohabitation entre chaque élection. Donc c'est pour ça qu'on a calé les deux agendas.
Là, on peut se retrouver avec 5 ans de cohabitation, 4 ans et demi en tout cas.
On peut se retrouver effectivement avec ça, mais c'est aussi pour ça que je vous disais avant que l'enjeu aussi de la redéfinition des partis politiques, elle est de dire, on a compris que les deux, gauche et droite, se déplaçaient un peu à leurs extrêmes, mais en fait, qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va aller de Valls à Juppé? Et dans ce cas-là, peut-être obtenir une majorité aux législatives? On sait aussi pertinemment que le lendemain du second tour des présidentielles, il risque d'y avoir un afflux, cette fois avoué par exemple, d'anciens députés ou en tout cas cadres du PS qui vont rejoindre le mouvement politique qui sera ce moment-là un mouvement politique En Marche. Donc peut-être que Emmanuel Macron, en redéfinissant ce centre mais en l'ouvrant à ceux qui veulent bien collaborer avec lui, on l'a vu aussi avec Édouard Philippe, le député maire du Havre, qui a dit non seulement je veux qu'Emmanuel Macron gagne parce que c'est dans mon idéal républicain, c'était un ténor d'Alain Juppé, je veux qu'il gagne parce que c'est dans mon idéal républicain, mais surtout je veux l'aider à gagner. On a vu Bruno Le Maire, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a dit pourquoi ne pas gouverner avec Emmanuel Macron. On a vu des personnalités dont une qui m'est chère, Xavier Bertrand, on a vu en tout cas des soutiens de Xavier Bertrand dire mais pourquoi quelqu'un comme Xavier Bertrand, un vrai républicain, démocrate, ne travaillerait pas en bonne intelligence avec Jean-Yves Le Drian et avec Emmanuel Macron? Donc on a quand même une dynamique, une incertitude sur ce que va être ce parti En Marche. Mais en tout cas, il y a la potentialité d'obtenir, si c'est un parti qui rassemble de manière assez large, une majorité aux législatives. Ce qui est sûr, Christophe, c'est que si Emmanuel Macron se cantonne simplement à un En Marche réduit, simplement société civile, ne voulant prendre aucun ancien poids lourd des deux côtés, là oui, il n'aura pas de majorité et on assistera à quelque chose d'assez ingouvernable pour les 5 ou en tout cas 4 prochaines années et demie.
D'accord, on sent que vous êtes passionné par la politique.
Ah, c'est passionnant. Et puis en vrai, cette campagne, elle est passionnante.
Oui, on regarde ça en arrière, elle est incroyable cette campagne.
Elle est incroyable. Et puis alors, il y a aussi un enseignement qu'on n'a pas évoqué, c'est clairement l'échec aussi de la stratégie d'une mise en place de primaire.
Absolument.
C'est tout à fait finalement d'accord. En France, on a peut-être cette culture du chef, où quand on adhère à un parti, on a envie qu'il y ait un leader qui nous désigne qui va être le prochain candidat à une élection présidentielle. Mais c'est clairement l'échec de cette stratégie qui consiste à dire d'abord les militants et sympathisants vont eux-mêmes élire un candidat qui lui-même concourra. Donc c'est aussi intéressant en termes d'usage de la science politique, de la politique, de voir que ce qui marche dans d'autres pays, la primaire typiquement aux États-Unis, elle ne marche pas forcément en France.
La différence, c'est qu'en primaire, aux États-Unis, c'est que les partisans qui peuvent voter. Alors qu'en France, tout le monde peut voter.
On avait eu des petits biais où il fallait signer quand même une charte des valeurs, qui évidemment, c'est utopique de penser que toutes les personnes respectent les valeurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ça amène plein d'enjeux pour les partis politiques, qui sont à chaque fois des petites entreprises qui doivent concourir sur des petits business à chaque fois qu'il y a une élection, ça les amène à réfléchir à d'autres stratégies, à d'autres moyens de toucher un électorat, une cible, un candidat. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'abstention et comment on va, dans les prochaines années, considérer le vote blanc en France, qui est d'une certaine façon l'expression d'une volonté politique de quelqu'un de se déplacer quand même dans les urnes pour voter, mais qui n'est toujours pas pris en compte.
Est-ce que justement, et on va conclure là-dessus, le fait de comptabiliser ce vote blanc, parce que c'est la première fois que ça va être répertorié, je crois, le fait de donner un poids, donc du coup maintenant, à ce vote blanc, ça veut aussi dire que peut-être, et la réponse est sûrement non parce qu'on voit qui est là, mais ça veut peut-être un petit peu élaguer aux extrémismes, si on comprend que le vote blanc peut avoir un certain poids. Est-ce qu'il y a aussi ce but de dire, vous voulez faire un peu le rebelle quand vous allez voter, vous n'êtes pas forcément obligé de voter pour quelqu'un aux extrêmes, il y a aussi le vote blanc qui peut aussi avoir un certain poids ou pas?
Ce qui est sûr, c'est que la culpabilité en politique, elle marche pas vraiment, et on le voit bien avec le Front républicain. Les invectives à voter pour tel ou tel parti, les consignes de vote ne sont plus suivies. Après, la question, elle est moins comment est-ce qu'on contraint les gens à ne pas voter aux extrêmes que comment est-ce qu'on les encourage pour voter pour des partis républicains. J'ai pas la réponse à cette question, mais comme vous le dites, le vote blanc peut être une solution d'expression d'un vote contestataire autre que les extrêmes.
D'accord, allez, on va pas vous demander un pronostic, mais est-ce que le vrai pronostic, c'est de dire que, et on va sortir des clichés, est-ce que vraiment on a une redistribution des cartes lundi matin, on aura une redistribution de la politique française dans son ensemble?
Ah oui, clairement, clairement. Lundi matin, soit on se retrouve avec quelqu'un qui a fait une campagne éclair et qui va prendre le lead sur la politique comme d'autres ont rêvé de le faire depuis des années, et avec cette incertitude dont on a parlé pour les législatives, soit on se retrouve avec l'extrême droite au pouvoir, ce qui serait aussi un changement majeur pour la politique française. Donc dans tous les cas, lundi matin, les Français ne vont pas se réveiller avec la gueule de bois, mais vont se réveiller avec plein de questions et plein de réponses à obtenir pour les prochaines semaines.
D'accord, un dernier mot, il faut aller voter. Quoi qu'il en soit, il faut voter.
Ah, il faut voter, oui.
La question ne se pose même pas.
allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter.
Exactement, merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench